Monsieur Massé Dimassé, bonjour.
Bonjour, monsieur Koïla.
Presque un an après l'opération de contrôle physique des fonctionnaires de l'État, qu'est-ce qu'on peut retenir comme bilan de cette vaste opération que vous avez lancée?
Permettez d'abord, j'adresse ma gratitude la plus appuyée au président de la République déjà. Merci au Premier ministre qui a accompagné. Merci aux partenaires sociaux et à la société civile qui était associée à ce travail. Et merci à la Banque mondiale. Merci au PNUD qui ont apporté une contribution financière appréciable. Tout ce qui a permis de boucler ce travail dont on a donné les résultats le mercredi 30 août dernier. Principaux résultats, d'abord, nous avons réussi à identifier ce que nous appelons des fictifs à hauteur de 2871 fonctionnaires agents d'État. Ce sont des gens qui ne sont pas venus au contrôle. Et deuxièmement, l'impact financier qu'on a dégagé, on a fait le point aussi, c'est plus de 1,7 milliard. Que nous avons dégagé comme économie mensuelle que l'État fait à partir de cette opération de contrôle. Voilà les résultats principaux. Évidemment, il y a aussi l'ensemble des statistiques qui constituent un tableau de bord aujourd'hui pour gérer les ressources humaines de l'État que nous avons dégagé aussi.
Quel est le ministère le plus concerné ou encore le plus touché par ces fonctionnaires fictifs?
C'est surtout le ministère de l'Éducation nationale où on a retenu finalement 900 et quelques fonctionnaires qui ne sont pas présentés au contrôle. Ce qu'il faut rajouter, c'est que ce chiffre de 2871 fonctionnaires, c'est un chiffre à minima. Si j'avais été rigoureux, on serait à 4000 et quelques, 4070 plus exactement.
Qu'est-ce qui vous empêcherait d'être si rigoureux?
Deux raisons d'abord, parce que la plupart des fonctionnaires qui ont été rachetés, on va appeler ça comme ça, les 1199 fonctionnaires que nous avons rachetés, pour la plupart, ce sont des fonctionnaires de l'éducation nationale. Or, vous savez que nous avons un déficit énorme dans ce secteur-là et nous sommes contentés de leur dire, nous allons faire des contrôles inopinés qui vont démarrer très bientôt. Mais la prochaine fois qu'on ne vous trouvera pas à votre poste, eh bien vous serez purement et simplement radié. Voilà ce qu'on a dit. Mais nous continuons aussi à faire un travail de lettrage. J'ai demandé qu'on circularise tous les établissements privés ici au niveau de Bangui pour savoir quels sont les personnels nationaux qui travaillent dans ces établissements privés. On va croiser ça avec la liste des gens qu'on a rachetés. Ces gens, c'est qui? Prenez localité comme Pissa. Avant de démarrer le contrôle, j'ai demandé à nos directeurs de ressources, mais avec le concours aussi des sous-préfets et des préfets, de dire combien il y a des fonctionnaires dans leur localité. À Pissa, on n'avait que 7 fonctionnaires. Et quand on a fait le contrôle, il y en a 42 qui sont présentés au contrôle au niveau de Pissa. Ça fait donc 35 fonctionnaires en plus. On peut supputer que c'est des fonctionnaires qui ne sont pas connus sur place là-bas, qui sont peut-être officiellement affectés à Pissa, mais qui n'ont jamais mis les pieds à Pissa. Ils sont restés à Bangui. Mais quand ils ont appris qu'il y avait les contrôles, ils se sont précipités pour faire le contrôle à Pissa. Il y a aussi ceux, quand vous passez par exemple, en fait Damara, Bougangolo, Bouka, etc. Au premier passage, les gens restent 2 ou 3 jours, etc. Ils continuent. Et quand ils reviennent, des gens les arrêtent pour dire oui, mais on était à côté, on était là, etc. Et quand ils m'ont demandé, j'ai dit ça fait rien, prenez-les. C'est-à-dire, c'est des gens, on peut supputer que c'est des gens qui étaient ailleurs, qui étaient en situation d'abandon de poste, mais qui ont couru pour attraper le contrôle. Mais comme le contrôle est déjà passé, ils ont attendu le retour de la mission pour se faire enrôler.
Donc, si je vous comprends bien, c'est un contrôle qui a été fait à la tête des clients.
Non, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que le contrôle est passé. Ils n'ont pas trouvé des gens sur place. Et au retour, il y a des gens qui ont dit, on était là, mais on est allé à côté. Si j'avais été strictement rigoureux, on n'aurait pas pris ces gens-là. J'ai dit, prenez-les puisqu'ils sont là-bas. Mais maintenant qu'ils sont là, il faut qu'ils y restent. Si au prochain passage d'une mission inopinée, on ne trouve pas, vous serez purement et simplement radié. Ça, c'est un premier niveau. Deuxièmement, tous ces gens-là, parce que en faisant ça, en se faisant enrôler en dehors du calendrier normal de passage dans les localités en question, l'informatique les retient comme des gens qui sont à part. Je peux les identifier tout de suite. Et je vous ai dit, j'ai demandé une circularisation au niveau des établissements privés, puisque la plupart, c'est des enseignants. Du fondamental, on va voir. Si ici à Bangui, je retrouve ces noms-là, par exemple enseignant dans un établissement privé à tel quartier de Bangui, et que vous êtes affecté à Bossambélé, vous ne pouvez pas être en même temps aux deux endroits. À ce moment-là, ces gens-là seront purement et simplement radiés.
Vous mettez beaucoup plus l'accent sur le secteur éducatif, alors que la défense constitue un grand malaise pour votre contrôle que vous avez initié. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vous attaquez pas à ce secteur de la défense où il y a beaucoup de brebis galeux?
On va y arriver, mais il faut faire les choses par étapes. Le périmètre de ce contrôle, c'est les civils et les policiers. C'est ce qu'on a fait pour l'instant. La deuxième étape, c'est les FACA et c'est les gendarmes. Cette deuxième étape, une fois qu'on aura fini avec ça et que le financement se met en place, on le fera pour les FACA et pour les gendarmes. Ça viendra.
Le centrafricain lambda ne comprend pas, c'est que vous avez eu un financement pour faire un contrôle assez global? Pourquoi vous avez, au cours de chemin, fait de façon sectaire en mettant de côté le ministère de la Défense, par exemple, qui constitue le gros lot de la fraude?
Je ne sais pas pourquoi vous parlez avec une telle légèreté. Vous avez lu les termes de référence du contrôle que j'ai fait pour dire que j'ai reçu de l'argent pour faire le contrôle global et que j'ai fait que l'enchaîne.
Vous avez quand même remercié tous les partenaires.
Mais c'est à base de termes de référence que ces partenaires ont financé. J'ai dit, voilà ce que je fais, voilà l'étendue, je fais sur les civils et sur les policiers. C'est ça que les partenaires ont financé. Maintenant, vous dites, le gros lot de la fraude, c'est au niveau des FACA. Mais comment vous le savez? On parle de salaire, hein? On ne parle pas de PGA.
Nous avons un précédent avec le fichier unique de référence. Ce que vous faites n'est pas un fait nouveau en République centrafricaine.
Si, c'est un fait nouveau, et je vais vous expliquer pourquoi. Le fait nouveau, c'est que, vous voyez, quand vous venez faire le contrôle, toutes vos données biométriques sont recensées, de sorte que vous ne pouvez pas venir deux fois avec deux noms différents justifier deux salaires. Vous ne pouvez pas le faire. Et d'ailleurs, ça me permet de vous dire que, puisque vous avez demandé quel est l'impact des 2800, il n'y avait pas que ça. Les 2800, c'est les gens qui ne sont pas venus au contrôle. Mais on a aussi enlevé tous les doublons, tous les salaires en double, les indemnités indûment payées, etc. C'est ça qui fait cette économie de 1 milliard. Mais revenons à cette question-là. Vous voyez, lorsque vous faites un contrôle simplement pour voir si le fonctionnaire est physiquement sur le lieu de travail, c'est une chose. Mais quand vous faites un contrôle pour apurer le fichier, c'est autre chose. Parce que d'autres éléments rentrent en compte. C'est pas seulement la présence physique, mais c'est aussi ce que vous avez dit, l'assurance qu'on ne peut pas payer 2, 3, 4 salaires à un seul individu. Et ça, c'est la spécificité de ce contrôle que nous avons fait. Sans compter que ça va déboucher sur d'autres éléments qui sont plus techniques, des éléments informatiques qui permettront par exemple de gérer plus convenablement la question des retraites et des pensions.
Ce à quoi les Centrafricains s'attendent le plus, c'est le volet judiciaire pour qu'il y ait réparation, parce que les gens qui ont perçu indûment le salaire de l'État doivent répondre de leurs actes. Ils sont aujourd'hui comment à être devant la barre au regard de tout ce que vous avez eu à faire comme contrôle et que vous avez déniché comme du manque à gagner pour l'État.
Nous, chaque fois que nous avons une suspicion sur un cas, nous déférons le cas devant le juge d'instruction. Il y a des gens, il y a des cadres supérieurs qui ont fait la prison. Je peux vous parler des cas où les gens ont demandé une liberté provisoire pour pouvoir leur permettre d'avoir une activité pour rembourser le solde de ce qu'ils doivent. Non. On a décidé avec le ministère de la Justice que le secret de l'instruction ne permettait pas de donner des chiffres maintenant. Le moment viendra où soit le procureur, soit le juge d'instruction lui-même, quand il aura l'autorisation, fera le point sur le montant qu'il a déjà encaissé au niveau du conséquence. Mais pour ce qui concerne les cas que j'évoque ici, les gens qui écrivent pour demander à être mis en liberté, en me présentant le reçu de ce qu'ils ont payé, nous sommes à 90 millions déjà de francs CFA.
Donc maintenant que vous avez bouclé ce dossier avec succès, vous comptez relancer la machine pour d'autres secteurs qui sont restés en suspens à partir de quel mois?
Je pense que dès le mois de janvier, nous allons commencer.
Finalement, au bout de la chaîne, on est arrivé à une situation où il y a beaucoup de compromis et de compromissions. Si aujourd'hui, peut-être un Centrafricain qui nous suit en ce moment et qui vous pose cette question, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir conclu un marché de compromis et de compromissions au regard de tout ce qu'on a eu de ce contrôle-là? Qu'est-ce que vous allez leur dire?
Non, c'est insultant pour moi de parler de compromissions. Qui a acheté Dimassé pour qu'il ne fasse pas telle ou telle chose? Qui? Je mets au défi quiconque. Tous les gens, y compris les membres du gouvernement qui sont venus négocier pour des particuliers, je leur ai opposé une fin de non-recevoir. Poli, mais une fin de non-recevoir. Personne. Je mets au défi quiconque de venir dire qu'on peut taxer Dimassé de compromission. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut travailler avec méthode. Nous commençons sur un sujet, j'ai dit les civils et les policiers, nous avons bouclé et nous allons continuer sur les autres catégories de fonctionnaires, ceux qui sont mandatés par le Trésor public. Point. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de compromission. C'est un programme de travail et je le suis à la lettre.
Monsieur le ministre Marcel Dimassé, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.